was awesome. Well, thank you, Rebecca.
Thank you. Merci, Rebecca, pour nous emmener en dehors de la boîte habituelle.
Now, don't go back into the box.
Maintenant, ne rentrez pas tout de suite dans la boîte. Tout de suite.
How are you doing, my friends?
Comment est-ce que vous allez ce matin, mes amis? Ça va?
Now, don't lie to me if it isn't. You
maintenant,
can say,
ne mentez pas. Si ça ne va pas, vous pouvez simplement me dire, bof.
With God, God is always good. Amen.
Avec Dieu, Dieu est toujours bon. Amen.
So even if we don't think it's going that well,
donc même si nous
not too bien,
n'avons pas l'impression que ça ne va si bien,
we know God is always good.
On sait que Dieu est toujours bon. Amen.
We always hang on to that because we
et on se raccroche toujours à ça
God is good.
Parce qu'on sait à tout amen. Moment que Dieu est bon.
She said, amen.
Elle a dit amen.
Amen. Let's begin with a word of prayer, all right?
Commençons avec un mot de prière ensemble. C'est super de vous avoir tous ensemble. Et c'est super que vous vous connaissez tous maintenant. En tout cas, vous avez pu apprendre à vous connaître un petit peu plus, et c'est super. Seigneur, je te remercie. Parce que tu es ici, on le sait. On le sait depuis le début. On est venu ici. Je crois que tout le monde est venu en venant vers toi, avec toi, et que tu es avec chacun d'entre eux. Et même dans cette écriture, et même dans ces choses créatives, merci, car tu es là avec nous. Merci, parce que c'est quelque chose de très spécial. Merci, parce que maintenant tu es là. Et tu veux nous dire quelque chose, et on est reconnaissant pour ça. Parce que tu aimes communiquer avec nous. Et nous voulons que tu parles. Et nous dirons en foi tous ensemble, même comme ton servant Samuel a appris à te le dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donne-nous une parole que tu veux qu'on entende ce matin. Et merci car tu es bon en tout temps. Saint-Esprit, fais pleuvoir ta pluie sainte sur nous et fais que notre vie puisse porter un fruit abondant pour ta gloire. Et le peuple de Dieu disait amen. Est-ce qu'on pourrait juste ouvrir un peu plus, fermer un peu la porte, s'il vous plaît, merci. Alors, de quoi avons-nous parlé dans les dernières semaines? Ce que Jésus essayait de nous dire à travers tous ses temps, pendant son temps sur terre, deux mots particuliers dans une seule phrase. Suivez-moi. 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 Elle dit dans différents tons, mais toujours très direct, très sincère et très orienté. Parce que c'était le début de la vie. Trouver le vrai objectif, la vraie chose qu'on peut accomplir dans la vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question pour un petit moment. Pourquoi? Pourquoi le suivre? On devrait toujours se demander pourquoi. Amen. On peut dire, suivez-le. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est vraiment le plus important? Et j'aimerais nous emmener pendant un moment dans l'Écriture et partir de là. J'aimerais que vous alliez dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Ici, Paul écrit une lettre à ses frères et sœurs colossiens.
Voilà.
Il remercie les loups du coup pour leur foi en Seigneur. Et ensuite, il partage une prière pour eux, et comme il l'a fait dans beaucoup de ses lettres, comme vous le savez, ceux d'entre vous qui étudient la Bible. Et dans ceci, dans ce fait, dans cette prière pour eux, il parle beaucoup de Jésus. Jésus le Christ. Et il pointe tellement à propos de qui il est, pas tout, mais c'est incroyable et c'est tellement énorme de voir tout ça, de voir chaque point les uns après les autres. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ça pour un petit moment et ensuite décoller pour un autre deuxième point, mais qui est relié à ça aussi. Alors regardez si vous le voulez bien, en Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Et Yann, si tu veux bien, je vais lire à travers le tout, et ensuite je vais commenter chaque phrase, donc ensuite tu peux revenir sur chaque phrase dans les slides. Merci.
He is the image of the invisible God.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Regardez ceci, verset 15. Il est appelé l'image du Dieu invisible. Ce mot n'est pas là pour rien, c'est-à-dire qu'il exprime la vraie image du seul vrai Dieu. Et c'est du coup la première chose qu'il voulait faire en incarnant, en étant en chair quand il est venu sur terre. C'était toujours un portrait parfait de qui est le Seigneur, qui est Dieu, le Père. Et donc, il dit, en voyant Jésus, vous avez vu Dieu le Père. C'est quelque chose de vraiment puissant. Donc, il nous aide à nous donner une idée de qui Abba réellement est. Et ça, c'est Jésus. Dans ce verset, il est aussi le premier-né de toute la création. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il existait avant toute la création. C'est la manière de l'Écriture de nous dire qu'il est éternel.
C'est
aussi de son royaume en tant que premier-né. Vous savez, l'époque des rois, quand le père meurt, c'est le fils, le premier-né, qui récupère les rênes du royaume. C'est cette image que Jésus dit. Ensuite, on arrive au verset 16. Combien de choses a-t-il créé ? Tout, il a créé toutes les choses. Jean le refait aussi dans sa lettre, dans le chapitre 3. Encore une fois, tout ce qui existe, c'est lui qui l'a fait. Il a tout fait. Et c'est fait par lui, et pas seulement par lui, mais aussi pour lui. Pour ses désirs de ce qu'il a, donc il suit la volonté de son Père, donc il va accomplir la volonté du Père, mais il a la liberté de pouvoir le faire de la manière dont il le souhaite. Donc ça, c'est la suprématie. Le verset 17, il existe avant toute chose. Donc il avait encore une enveloppe avant que les temps commencent ici. Est-ce que vous pouvez essayer de concevoir dans votre esprit ce à quoi ça pouvait ressembler avant que le temps ne démarre, de concevoir ce que ce sera une fois que le temps ne sera plus pour l'éternité, avoir une conception de l'infinité. Combien d'entre vous ont essayé de réfléchir à ça? Combien d'entre vous sont encore en train d'y réfléchir? Mais oui, il est celui qui est infini.
He holds all things together. I love this part.
And et tout subsiste en lui.
It's by the word of his power that all things are upheld.
Par les mots de son pouvoir que toutes les choses tiennent en place. S'il renversait ces mots, les choses ne seraient plus soutenues. Tout tomberait en confusion, s'écroulerait en confusion, tout se désagrégerait. Nos cellules, nos corps sont retenus par une énergie
that if that energy
disparaissait,
les
choses exploseraient ou imploseraient à cause de cette énergie qui est là. Et devinez de qui vient cette énergie. Et devinez qui maintient cette énergie, qui nous tient tous en vie. Quelle image incroyable! Jésus tient tout dans sa paume de sa main. Une image incroyable.
He also, verse 18, is the head of the body.
Verset 18, il est aussi la tête du corps de l'Église. Toutes les autres choses dépendent de ça. Il est celui qui règne, il est celui qui contrôle, c'est le chef. C'est celui qui a la responsabilité. Ouais, si vous imaginez la tête sur le corps, voilà, c'est l'image de qui il est. Mais d'une façon plus infinie et illimitée. Mais l'image est là, pour nous. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il a créé le chemin vers Dieu pour nous. Est-ce que vous l'avez remercié aujourd'hui pour ça? Merci Jésus d'avoir pavé le chemin pour que je, ou pour que quiconque qui ait le désir de pouvoir venir, puisse aller à Dieu à travers sa mort et sa résurrection. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est pas le premier qui a ressuscité des morts. Ce Jésus a même ressuscité des gens des morts pendant qu'il était là, sur terre. Et ensuite, il a été ressuscité sur terre. Mais Jésus était le seul qui a été ressuscité des morts par son propre pouvoir. Ça, c'est une distinction et c'est ce qui le rend si particulier, spécial. Il est suprême dans toutes les choses. Après toutes ces choses, est-ce que c'est surprenant que Paul le dise de cette manière? Non, parce qu'il n'y a personne d'autre. Il a tout le pouvoir, il a toute la gloire. Verset 19. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Dites tout. Tout est en lui. Il est entièrement Dieu. Et je vois cette image de la langue. C'est comme si ça abondait, ça se déversait, ça débordait, toute sa gloire et toute sa bonté. C'était vrai quand il était sur terre avec nous. Pas seulement pour lui-même, mais pour toute personne qui le suivrait. Est-ce que vous avez expérimenté un peu de cette abondance dernièrement? Est-ce que les choses sont débordées sur vous et ensuite, au-delà de vous, à cause de son extravagance, son amour incroyable, extraordinaire? Quelle image incroyable! Le verset 20, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, par son sang, versé sur la croix. Il l'a fait. De sa propre volonté, il n'avait pas à le faire, mais il l'a fait pour nous. Est-ce que vous l'avez remercié pour ça dernièrement? Dites, il m'aime réellement. Continuez à le dire jusqu'à ce que vous soyez convaincu et je vais attendre pendant 10 minutes. Il m'aime vraiment. Il a fait ça. Donc, le voici aussi, celui qui fait la paix, la fin du verset 20. En faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Parce qu'à travers son action, il a pu nous apporter du sang pour être disponible auprès de son Père. Donc on décide de le suivre, et ensuite on a sa vie en nous, et on devient une nouvelle création en lui. Et maintenant, on a la paix, on est en paix avec Dieu. C'est lui qui a amené ça, pour quiconque qui décide de le suivre. Et pensez à ce que ça fait aussi. Regardez la personne à côté de vous. Si cette personne est un disciple de Jésus, alors vous avez aussi la paix avec cette personne.
Wow,
j'ai la paix avec toi. Même avec certains d'entre vous qui sont plus difficiles que d'autres. Même avec vous, c'est dit. On peut avoir la paix grâce à Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant pour la paix? Maintenant, tout ça a l'air bon. On se dit, waouh, c'est vrai. C'est vrai, Jésus est le premier. Il est au-dessus de tout.
Et c'est ce que ça se passe pour la plupart d'entre nous quand nous conçoivons de ça. Nous pensons, OK,
Et au tout début, quand on commence la vie chrétienne, voici un petit peu à quoi ça ressemblait. Dieu est en haut. Donc Dieu est le plus important, tout en haut. Et ensuite, notre épouse, et puis il y a les enfants, et puis il y a notre métier, et puis il y a notre ministère. Et ça a l'air très bon, mais quand on va dans le côté un peu plus pratique, dans la vie quotidienne, ça ne marche pas. Ce diagramme ne marche pas.
Quoi?
Vous dites? Ça, c'est un enseignement populaire et c'est facile de voir. Mais quand vous allez à travers ceci, vous voyez que ça n'a pas trop de sens. Vous devez creuser, ou sinon vous allez rater l'essentiel. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre Jésus en premier, avant ma famille? Qu'est-ce que ça veut dire pour Michael de mettre Jésus avant sa famille? Ça veut dire qu'il ne doit pas passer beaucoup, de temps avec sa famille puisque c'est Jésus le premier. Qu'est-ce que ça veut dire pour JB de mettre Jésus avant sa carrière, son métier? Ça veut dire que je dois juste démissionner pour avoir tout mon temps pour Jésus. Et JB dit « Amen ». Ça a l'air bien, c'est un bon principe chrétien.
Amen.
Et ensuite, c'est « Non, attendez une minute ». Si du coup, je laisse ma famille pour être pour Jésus et je laisse ma carrière, en fait, ça ne se connecte pas, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, qui n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le problème essentiel avec ça? Avec ce genre de manière de penser, on finit par enlever Jésus de là où on passe la majorité de notre temps, et on le met d'un côté à part, qui est censé être en haut. Mais non, il est ailleurs, sur une île, donc vous l'isolez ailleurs, parce que vous avez besoin de gérer d'autres choses. Voilà, la vie, le travail, la famille, qui ne sont pas toujours légitimes. Et du coup, Jésus, on le repousse en haut, mais du coup, il n'a pas beaucoup de notre temps, parce qu'on se laisse occuper par le reste. Donc on doit penser différemment. Et j'espère, et je suis sûr que vous penserez différemment ce matin, une fois que vous aurez quitté l'Église, et que vous aurez un cœur différent à propos de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'était pas de cette manière-là que les choses devaient fonctionner. Si vous relisez dans Colossiens, dans ces versets qu'on vient de voir, de versets 15 au 20, ça nous dit de manière répétée que Jésus est premier, qu'il est avant tout, qu'il est au-dessus. Oui, c'est vrai. Amen. Totalement, je suis d'accord. Absolument. Mais, ça dit aussi quelque chose d'autre. Ce que vous remarquez, toutes les choses ont été créées à travers lui, pour lui, toutes les choses. Que dans lui, toutes les choses soutiennent ensemble, subsistent en lui. Par lui, tout est réconcilié avec Dieu le Père. Donc Jésus est le premier, oui. Il est premier dans l'ordre, il est premier dans l'importance. Mais il est premier parce que c'est le centre de tout. Est-ce que vous voyez la différence? C'est le centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on change mon diagramme? Oh non, il faut que je change mon diagramme. Oui, changeons le diagramme. Parce que c'est clé. C'est vraiment clé. De maintenant, plutôt de m'inquiéter à mettre Jésus en premier dans nos vies, j'aimerais nous encourager tous ce matin à se concentrer pour le rendre le centre de nos vies. À quoi ça commence à ressembler dans ce cas-là? Vous voyez la différence? Si on peut utiliser voilà un diagramme limité pour expliquer cette notion, Ce n'est pas juste la priorité au-dessus de toutes les choses importantes, mais la priorité dans toutes les choses importantes. Donc, ce n'est pas seulement au-dessus, mais c'est dans. Vous voyez la différence ? Pas Jésus et ensuite ma famille, mais Jésus dans ma famille. Pas Jésus et ensuite ma carrière, mais Jésus dans ma carrière. Dedans, dans ma carrière. Pas Jésus puis ensuite ma relation, mais Jésus à l'intérieur de ça. Non, voici celle qui est plus difficile.
Not Jesus,
les hommes,
then football,
pas Jésus, puis le foot,
but Jesus,
mais Jésus
in my football.
Dans mon foot.
Everybody's really quiet now.
Tout le monde est très calme, silencieux ce matin. Je vais penser, je vais d'abord réfléchir à celui-là, pasteur, hein?
Et cetera,
et cetera, et cetera, et cetera, et cetera.
That is following Jesus.
Ça, c'est vraiment suivre Jésus.
Think about that.
Réfléchissez à ça. Dans l'Écriture.
Now, I'm going to hit a practical question quickly, and then we're done.
Ensuite, on va aller dans une question pratique. Comment est-ce qu'on fait vraiment ça? Comment est-ce que vous faites de lui le centre? Qu'est-ce qui fait que tout ça fonctionne? Et je sais ce que beaucoup d'entre nous, il faut que je passe du temps avec Dieu, il va falloir que je prie, il va falloir que je lise ma Bible, il va falloir que j'aille à l'église, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ces manières, ces moyens, et quand vous y pensez juste de cette manière, ces choses dont il faut que je me discipline, et quand on y réfléchit, tout ça, c'est que deux choses dimensionnelles si vous réfléchissez que de cette manière. Si je fais ceci, si je branche ceci, alors je vais brancher ça et je vais faire ça. Et c'est bon, on a fini. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne parfaitement? Pour la plupart d'entre nous, non, j'ai toujours beaucoup de difficultés, de batailles. Ça, c'est très difficile pour moi de faire ces choses. Alors, quel est le problème? Vous voyez? La force qui dirige tout, la force qui fait que qu'on peut le garder au centre n'est pas la discipline. Combien d'entre vous ont pensé que c'était la discipline? Combien d'entre vous ne voulaient pas admettre que c'était la discipline?
Non,
ça doit aller bien plus profondément que ça. La discipline, techniquement, est seulement en deux dimensions. J'ai oublié. J'aurais dû m'arrêter au Cinécité et prendre une paire de lunettes 3D. Et maintenant, ces choses dont je viens de parler, ce sont que en 2D. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous pouvez avoir la discipline? Parce que vous devez aller plus profondément. On en a déjà parlé il y a quelques temps, mais je vais le répéter encore rapidement. Qu'est-ce qui est la force qui dirige tout ceci? C'est l'amour qu'on a avec Jésus. C'est la relation qu'on a avec lui. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 15, je ne vous appelle plus des servants. Je vous appelle maintenant des amis. Il a emmené à un autre niveau de relation. Il l'a passé de 2D à 3D. Vous voyez, la force qui emmène tout dans notre vie, c'est cette connexion avec lui, la relation avec lui, la relation et la connexion d'amour avec lui. De tout ceci viendra ensuite la discipline. Si vous avez une relation grandissante et puissante avec lui, et vous avez un petit aperçu de Jésus, croyez-moi, vous allez en vouloir plus. Si vous avez un vrai aperçu de Jésus, et ça, ça va vous aider à dire non à ceci et oui à ça, parce que vous voulez plus de ça. Vous voyez? Vous l'emmenez d'un environnement en deux dimensions à un environnement en trois dimensions. Mais il y a une autre chose qui amène encore plus de punch à tout ceci, parce qu'il y a trois choses qui essayent de détruire cette relation avec notre Jésus vivant. Ils veulent du coup soit l'affaiblir ou le tuer. Il y a le système du monde, il y a des choses meilleures en dehors, faites ceci. Il y a notre chair qui veut qu'on fasse les choses de notre manière pour nous faire plaisir, trouver du plaisir de cette manière ou d'autre manière. Mais ne pas suivre des règles rigides, d'être responsable de quelqu'un d'autre. Lui-même. Et puis il y a l'ennemi lui-même, le démon, qui nous détruirait tous s'il pouvait en avoir l'opportunité, parce qu'il est là, dans une guerre de vengeance contre le peuple de Dieu. Vous voyez, on combat une guerre sur trois fronts. Donc qu'est-ce qui nous pousse dans cette relation trois-dimensionnelle? Première, cette relation, j'espère que tout le monde pourra le dire ce matin, cette relation qu'on a avec Jésus, qui est vivant, et d'avoir cet aperçu, nous donne envie d'en avoir plus, parce qu'il n'y a rien d'autre sur Terre ou dans l'univers qui soit comme ça. Mais en plus de ça, il y a le fait qu'on est en guerre. Le monde, la chair et le démon. Maintenant, est-ce qu'ils ont un pouvoir? Comparé à Jésus, ce n'est pas grand-chose. Non, rien. Mais pourtant, on leur donne la permission. Des fois, on leur donne le pouvoir. Il n'y a rien comparé à ce qu'on a en lui. Mais il y a une guerre. Vous voyez le challenge? Ce qui nous emmène dans ce monde en trois dimensions. Cette relation avec Jésus vivant. Voilà. Et le monde et tout ce qu'on a vu, du coup, nous combat au jour le jour pour affaiblir cette relation et nous éloigner de Jésus. N'est-ce pas? Emmenez ça avec vous tout à l'heure et laissez-vous réfléchir à cette question et laissez-le mariner en vous dans la semaine qui vient. C'est important, c'est une question cruciale. Comment est-ce qu'on fait de lui le centre? Ce n'est pas avec des choses deux dimensionnelles comme la discipline, mais même si c'est des choses importantes, mais il faut savoir mettre les choses dans la bonne priorité. De savoir où est la vraie force qui dirige et qui emmène tout ça, qui propulse tout ça. Qui est qu'on aime cet homme Jésus, ce Dieu Jésus, et son Père, et son Esprit. On l'aime. Et l'autre, c'est qu'on est inquiété. On commence à avoir l'ennemi à nos frontières, et il vaut mieux du coup en être conscient pour pouvoir du coup battre et combattre. Voici les mots. Nous sommes le monde.
Leif was probably thinking of that when he said this, but to simplify,
nous et le monde, mes enfants, nous serons toujours en guerre.
Will always be at war.
Nous et le monde, mes enfants, nous serons toujours en guerre. Dites, nous serons toujours en guerre dans cette vie. Vous pouvez dire ça aussi, oui.
Nous
serons toujours en guerre. Un autre mot encourageant, la retraite est impossible. Partir en retraite est impossible. C'est marrant la manière dont vous le dites. Battre en retraite est impossible.
Et qu'est-ce que le dernier?
Et quel est le dernier conseil? Armez-vous, équipez-vous. Ceci est plus dur. Les hommes, c'est plus dur souvent pour nous les hommes que pour les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus orientées vers le relationnel que nous. Donc pour elles, c'est-à-dire d'avoir du coup une relation d'amour avec quelqu'un comme Jésus, c'est un peu plus facile que pour nous. Mais les hommes, je crois que c'est pour ça que Jésus a dit, je vous appelle maintenant mes amis, est-ce qu'on peut du coup se comprendre? Parce qu'on a été fait pour être des guerriers, et pour être des guerriers tendres.
Vous savez, quand on a une amitié avec Jésus, et puis on voit qu'il y a une menace à ça, what do we men do then?
Quand il y a du coup une difficulté ou quelque chose qui peut nous mettre à mal, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Et pourquoi? Parce que tout au début, l'histoire, dans la Genèse avec Adam, on a du coup l'autorité sur la terre.
Les
bâtisseurs, alors les hommes, prenez ça à cœur aujourd'hui. Vraiment, je vous invite, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça qu'il devient et qu'il reste le centre de tout. Et ensuite, ça marche réellement. Abba l'a fait à travers son fils. Son fils passait du temps avec lui tout le temps. On a pu voir du coup ce pattern, ce que du coup Jésus passait du temps régulièrement et fréquemment et quotidiennement avec son Père parce qu'il devait être prêt pour la guerre. Et ça a marché. Ça a marché. Donc, suivons-le. Amen. S'il vous plaît, levez-vous pour qu'on prie ensemble. Nous allons prendre un petit moment à la table de la communion, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment, tant que son peuple, ensemble, dans la présence d'Abba, ici avec Jésus, son esprit en nous, et juste en posant la question, Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre maintenant, en ce moment? Je veux être ouvert à ça. Je veux pouvoir prendre un autre pas envers toi, ou deux ou trois pas. Peu importe. Donne-moi ta grâce, Seigneur, pour recevoir ce que j'ai besoin d'entendre et de commencer à marcher avec toi à travers ça.
En
même temps que vous dites, que vous lui dites lui, je vous invite à lever vos mains, l'une ou les deux, pour dire encore oui, Seigneur. Oui, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Je veux que tu sois le centre de ma vie. Nous te prions, Père, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour être toujours avec nous, nous trois en un. Merci pour cette opportunité de pouvoir t'entendre aujourd'hui. Merci pour cette opportunité de pouvoir t'honorer, même en prenant ces éléments, pour regarder vers toi et te remercier encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous donner le pardon du péché. Si on se repentit, qu'on se retourne et qu'on va dans ta direction, quand tu commences à travailler dans notre vie pour nous donner la vie, la vraie vie. Merci pour ça, merci d'avoir rendu cela possible. Et nous célébrons ceci ensemble aujourd'hui. Mais on veut continuer à aller plus profondément, tant qu'on a dit oui. Ce que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, de prendre un autre pas pour nous rapprocher de toi, avec toi, Seigneur.
Et
le peuple de Dieu disait Amen.